1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Les trois chroniqueurs sont à mes côtés, Claudia, Ségolène et Fabio. Bonsoir à vous trois.
Salut.
Bonsoir. Allez, bonsoir.
Bienvenue à vous. Au programme de cette émission, nous avons trois sujets ce soir. Et on va débuter, Fabio, par le nouveau numéro du bimestriel du magazine Moins.
Le numéro 29, en effet, de ce bimestriel d'écologie politique. On va feuilleter un peu les différents articles, toujours extrêmement intéressants et touffus, et parler un petit peu du dossier, comme il y a toujours un dossier. Cette fois-ci, c'est le G20,
ouais,
qui va bientôt se dérouler à Hambourg, et on va pas en parler avec un des rédacteurs, Mathieu Glaire.
Qu'on connaît bien ici pour parler du magazine Moins. C'est dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes, La Rose des Vents, et nous allons aller au cœur de l'association Récifé. On le rappelle, c'est une association qui offre un espace de rencontre, d'échange interculturel pour les femmes à Neuchâtel. Nous allons découvrir ces activités qu'on peut y faire et qu'on peut découvrir, Claudia.
Oui, exactement. Alors, on ira à Neuchâtel pour découvrir cette association qui offre des cours de français, des activités socioculturelles, un espace pour les enfants. On aura avec nous la responsable du centre et on aura avec nous aussi une participante bénévole qui nous parlera d'un projet en lien avec femmes et migration et radio.
Et radio, ça tombe bien. Et puis toute l'équipe, je ne sais pas si toute l'équipe de Récifé, oui, nous a rejoint ce soir. On vous remercie d'être là avec nous.
Bienvenue.
Ça fait du monde, comme vous l'entendez ici, à Pôle Sud. Et puis, pour conclure cette émission à 7h20, Ségolène, tu vas nous proposer ce soir des idées de lecture avec la librairie Basta, dont un recueil de nouvelles qui va nous faire du bien pour la lecture de plage en plein soleil.
Oui, tout à fait. Donc, Mélissa Rendu de la librairie Basta, là, qui se trouve au quartier de Chaudron ou bien sur le campus de Dorigny, va nous présenter deux coups de cœur. Comme tu viens de le dire, un recueil de nouvelles qui parle d'Asie, mais pas que. Et puis également un roman, une fiction qui parle de vengeance, de femmes et de meurtres.
Des petites choses sexy, donc pour l'été, on en sait plus dans 40 minutes. Enfin, le programme de ce soir, c'est le nouveau numéro du magazine Moins, l'association Récif et les coups de cœur de l'été de Basta. C'est le programme qu'on vous propose ce mardi 13 juin dans ce grand direct. Un grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur La Fabrique en DAB sur le bassin lémanique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Nous avons pris de bonnes habitudes, Fabio, de feuilleter sur nos ondes les éditions du magazine Moins, le journal roman d'écologie politique. Il s'agit aujourd'hui de parler du numéro 29 du mois de juin et du mois de juillet, donc 2017. Fabio, tu as invité un des rédacteurs pour le parcourir avec nous, Mathieu Glaire. Bonsoir d'ailleurs.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django.
C'est un plaisir d'être là.
Alors on va attaquer directement ce numéro 29 de Moins. On s'y plonge avec toi pour donner envie à nos auditeurs de s'y plonger aussi. Alors on a fait la remarque qu'il y a plusieurs articles qui sont consacrés ou dans lesquels on parle de Ivan Illich.
Oui, c'est un peu un hasard en fait.
On dit en deux mots qui c'est Ivan Illich.
Oui, alors c'est très difficile de le définir, c'est une personne assez inclassable,
complexe.
Qui est en tout cas née en Autriche dans les années 20, 1926 si je me rappelle bien, qui vient d'une famille entre autres en partie juive, en partie croate, en partie autrichienne, enfin un mélange comme le vieux monde c'est si bien en faire, qui s'intéressait à la prêtrise, qui a été ordonné prêtre par l'Église catholique au Vatican, qui est parti aux États-Unis, qui s'est intéressé aux portoricains, en fait, qui a demandé à travailler dans des paroisses de New York avec les portoricains dont il était frappé par la foi et par la joie de vivre. Et puis petit à petit, au contact de populations différentes, il est devenu quelqu'un en fait de très critique vis-à-vis du monde moderne, de la technologie, etc. Il s'est installé au Mexique où il a fondé un centre le CIDEC qui est devenu une sorte de pôle de réflexion internationale sur la critique de la modernité, etc. Et il a écrit plusieurs ouvrages qui ont été passablement lus et discutés, surtout dans les années 70. Tu t'en souviens probablement plus que moi.
Moi qui étais déjà né. Nanana. Notamment, oui, sur l'école.
Voilà,
sur
une société la sans école, une critique radicale de l'école, la némésis médicale, une critique radicale du système de santé. Donc c'est quelqu'un qui est en fait un des grands précurseurs de l'écologie politique, quelqu'un auquel on se réfère toujours aujourd'hui, en particulier le mouvement de la décroissance lui doit beaucoup. Donc si je dis que c'est un hasard qu'on le cite beaucoup dans le journal, c'est évidemment pas un hasard dans le sens que c'est une des personnes clés du mouvement. C'est un hasard simplement dans le sens que normalement, voilà, il y a toujours peut-être un ou deux articles dans lesquels il est mentionné. Et puis là, ben voilà, il se trouve qu'il y a cinq ou six pages qui lui sont quasiment consacrées, mais c'était pas recherché.
Ouais, merci beaucoup pour cette présentation d'Ivan Illich. Ça valait quand même la peine depuis le temps qu'on lit moins et puis qu'on lit de Ivan Illich. Ça fait peut-être envie aussi à des personnes de reprendre ses écrits. Alors, on commence à page 5. Tu signes un article « Généralisons une vitesse faible et conviviale ». Voilà, en prenant les textes d'Ivo Illich et notamment de Jean-Pierre Dupuis dans les années 70 sur la façon dont nous nous transportons.
Oui, alors c'est un article en fait qui a été prévu un peu tardivement. En fait, sur la page de gauche, nous avons un article de Jean-Michel Corajou, qui est l'animateur du cercle des lecteurs d'Ivan Illich ici à Lausanne, qui est une personne qui a connu Ivan Illich et qui anime des réflexions, des ateliers sur Ivan Illich, et qui nous fait depuis quelques numéros des articles pour un petit peu vulgariser, disons, la pensée d'Ivan Illich, qui n'est pas toujours simple à comprendre.
Et il est très vulgarisant, cet article, sur les outils.
Alors, ça dépend, c'est assez rigolo, parce que ça dépend vraiment beaucoup des articles que Jean-Michel nous fait. Il y en a certains qu'on se demande si ça, c'est vulgarisé. Qu'est-ce que doit être l'original ?
Je l'ai compris, donc ça signifie qu'il a bien
celui-là,
vulgarisé.
Celui-là, effectivement, il est plutôt atteignable, je crois, enfin, compréhensible par tout le monde. Donc, il parle de la convivialité, donc la convivialité qui est un des grands intérêts d'Illich, d'essayer de travailler sur des outils conviviaux, des technologies relativement simples qui vont permettre aux gens d'être véritablement autonomes par rapport aux technologies actuelles. Ben, pour faire en deux mots, par exemple, un téléphone portable, vous avez besoin de métal qu'on va chercher en Afrique, qu'on va transformer avec de l'énergie qui vient d'ailleurs, de métaux rares, etc. Donc pour utiliser en fait un téléphone portable, on est dépendant d'une immense infrastructure, alors que voilà, écrire une lettre, ça peut être quelque chose de plus simple. Donc on a cet article sur les outils conviviaux à partir de la pensée d'Ivan Illich.
Et des outils qui ne deviennent plus conviviaux parce que justement ils prennent une telle importance et ils demandent une telle énergie, que ce soit dans la construction de l'outil ou bien dans l'énergie des personnes pour s'y mettre, que pour finir ce n'est plus des outils conviviaux. Là il fait la différence par exemple entre le vélo et la voiture.
Voilà.
Le vélo, c'est simple.
Alors c'est sûr qu'avec une voiture, eh bien, on va plus vite, mais pour pouvoir utiliser une voiture, on a besoin d'une énorme infrastructure pour fabriquer les voitures, pour fabriquer le pétrole, pour amener le pétrole chez nous, construire des routes, toutes des infrastructures qui empêchent d'autres déplacements. Par exemple, quand vous vous promenez en ville, eh bien, vous vous retrouvez handicapé dans une marche. Votre marche qui ne gêne personne se retrouve handicapée par les gens qui vont plus vite. Donc c'est ça qu'on appelle effectivement cette notion de convivialité, aussi cette notion de seuil qui est assez chère à Illich. Mmh. À partir d'un certain seuil, à partir d'une certaine quantité d'énergie, à partir d'une certaine vitesse, on se met soit à perdre nous-mêmes du temps, soit à faire perdre du temps aux autres pour nous pouvoir en gagner. On construit un aéroport, ça permet à quelques personnes sur Terre de se déplacer beaucoup plus vite, mais tous les gens qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, ils doivent par exemple contourner tout un aéroport pour se rendre de chez eux à leur travail ou chez leur grand-mère, tout en étant en plus assaillis par le bruit, par la pollution, etc.
Et vélo et voiture, on passe à la page, ça c'est sur la page de gauche, et puis sur la page de droite, c'est toi qui signes, généralisons, je disais tout à l'heure, une vitesse faible et...
Convivial. Oui, convivial. Alors, c'était l'idée de signaler un élément de la réflexion d'Illich et de Jean-Pierre Dupuis, qui est donc un ami à Illich, qui vit également au Mexique. C'est celle de la vitesse généralisée. Donc, quand on parle de vitesse de déplacement, on divise le temps, la distance parcourue par le temps. Je fais 100 km heure, ça veut dire que je prends une heure pour faire 100 km. Et en général, ben voilà, la voiture va plus vite que le vélo, évidemment, ou la marche à pied. Sauf qu'on oublie, en fait, de calculer certains éléments qui sont le temps et l'argent qui est nécessaire pour rendre ce déplacement possible. Donc, Illich et Dupuis se sont amusés à calculer le temps qu'il est véritablement nécessaire pour se déplacer en payant sa voiture. Donc, il faut travailler pour payer sa voiture, pour payer l'essence. Voilà. Ensuite, il y a aussi
les impôts qu'on paye pour les routes. On travaille pour payer ça.
Il faudrait pouvoir calculer aussi les problèmes de santé qui sont générés par la voiture, par la pollution, et puis qu'on paye aussi par nos impôts pour nos assurances sociales ou maladies, etc. Et en fait, à l'époque, ils avaient fait les calculs pour les années 70 aux États-Unis, et ils étaient arrivés au fait que la vitesse généralisée de la voiture était de 6 km/h. Donc en fait, il fallait 6 heures. Voilà, il fallait en une heure, on parcourt 6 km si on comptait tout. Donc à peine plus vite que la marche à pied, et surtout beaucoup plus lentement que le vélo. Alors on a repris un petit peu cette idée pour faire quelques calculs sur la Suisse. Et puis on montre que voilà, les choses ont légèrement changé, mais ça nous permet de faire une réflexion un peu
bien sûr
critique sur...
Mais heureusement que même si la réflexion reste, on continue à l'avoir, tu commences le deuxième paragraphe en disant ce raisonnement a bien sûr des limites.
Oui, c'est pas tout à fait non, aussi simple que sûr, ça, mais c'est sûr. Surtout pour nous interpeller.
Absolument. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on dit aussi que les riches, ils voyagent beaucoup plus rapidement que les pauvres. Donc c'est encore une histoire de classe.
Hein, bien sûr,
parce que les riches, ils gagnent beaucoup plus vite l'argent qu'ils vont, comme tu disais tout à l'heure, le jeter, le mettre à disposition de la voiture, l'achat de la voiture, etc., etc. Donc c'est encore une histoire de riches et de pauvres. On trouve aussi un thème qui est très cher à Illich,
hein. Qui est celui de réfléchir à des systèmes qui soient égalitaires, qui ne permettent pas à certaines personnes d'avoir accès à beaucoup de choses et à d'autres d'en être privées. Donc c'est ça aussi les outils conviviaux, c'est des outils qui ne vont pas empêcher d'autres personnes de bénéficier de leurs services.
Bien sûr. Et là, on saute à la page 28, où tu recueilles l'avis de 4 médecins sur toute une série de thèmes lancés par Illich dans les années 70, notamment dans Némésis médical, qui était publié en 75. Le titre, c'est « Contre-productif, nos systèmes de santé modernes ». Point d'interrogation, je l'ai mal dit, mais il y a un point d'interrogation.
On le sent.
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux pages qui sont très intenses par l'avis des médecins?
Alors, on pourrait en dire beaucoup de choses, évidemment. J'ai combien de temps? J'ai une heure d'antenne, c'est ça?
Oui, exactement. Je vois le matin, pourquoi pas.
Donc, d'abord, ce débat, je me permets de rectifier légèrement ce que tu as dit. Ça ne parle pas de plein de thèmes, ça parle de la santé.
La santé.
Puisque Ivan Illich a abordé effectivement beaucoup de thèmes. Là, c'est vraiment un débat qui se centre sur la réflexion d'Ivan Illich sur la santé, donc en particulier sur son ouvrage Némésis médical, publié en 1975, dans lequel il propose simplement l'idée comme quoi le système médical de santé, enfin, les systèmes médicaux de santé modernes, alors qu'on a l'impression qu'ils nous apportent beaucoup, qu'ils nous allongent notre temps de vie, qu'ils peuvent nous permettre de vivre mieux et plus longtemps, en réalité, c'est le contraire qui se passe. En fait, il émet l'idée que, en fait, on nous prive de notre santé, on remet notre santé dans les mains du corps médical, et puis que du coup, à travers aussi la peur de la mort, on n'a plus la force de prendre notre santé entre nos mains. Et alors, du coup, on a des vies qui sont peut-être prolongées de quelques années, mais à quel prix ? À un prix déjà qui est pour nous. On a beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui ne maîtrisent plus leur santé, qui ne maîtrisent plus leur vie. Et puis, un coût qui se reporte aussi à l'étranger, puisque nos infrastructures sont financées par des ponctions sur les pays du Sud, sur l'énergie qui est nécessaire pour faire tourner nos hôpitaux, qui génèrent des pollutions, etc. Donc, on a interrogé des médecins. Alors, engagés, c'est pas monsieur et madame médecin n'importe qui, c'est des médecins qui ont une réflexion déjà passablement critique sur leur métier. Et puis, on avait envie de les faire réagir, 40 ans après.
Sur les thèses. Sur
est-ce que
thèses.
Voilà, c'est toujours d'actualité ou pas?
Oui. Et certaines, pour eux, elles sont toujours d'actualité. Certaines un peu petit peu moins, mais là on rentre un peu dans les considérations par rapport à la personnalité d'Ivan Illich, son côté religieux peut-être, etc. Bref.
Oui, il y a un médecin surtout sur les quatre, il y a une personne qui considère principalement que les thèses d'Ivan Illich ne sont plus d'actualité, et puis les trois autres qui considèrent qu'elles sont encore tout à fait d'actualité avec certaines petites modifications dues au changement de ces dernières années.
Voilà, alors ça c'était contre-productif nos systèmes de santé moderne, page 28-29. On se lance un petit coup dans le dossier du mois.
On va lancer quelques pavés, c'est ça ?
Quelques pavés, d'accord. Où ça ? Hambourg.
Allons à Hambourg, je dis pavés. Hambourg.
Alors oui, on rentre directement dans le vif du sujet. Le G20, il va bientôt avoir lieu à Hambourg, si c'est 7 juillet, quelque chose comme ça. Donc ça va attirer beaucoup de chefs d'État, mais aussi beaucoup de personnes qui vont faire des contre-sommets. Et les articles... Au-delà du fait de présenter ce que c'est historiquement, ce que c'est, d'où vient l'idée du G8 et G20, etc. Un bel article signé par Ignacio Ramone, ancien directeur du Monde diplomatique. Moi, se lance un peu dans l'idée de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sommet. Est-ce qu'on est dedans et puis on propose d'autres choses directement à Hambourg? Certains disent non, on fait quelque chose, c'est mieux de ne pas aller là-bas, c'est de faire des choses peut-être ailleurs, en fait, d'avoir toujours une action alternative, mais qui peut être là-bas ou ailleurs. Et il y a aussi quelques discussions sur la violence.
Oui, effectivement, il y a une question qui est vraiment très intéressante, c'est celle de la manière de résister, la manière de lutter. Aujourd'hui, je pense que dans les mouvements écologistes, mais aussi les mouvements sociaux, il y a quand même une large dominance pour dire qu'il faut plutôt participer, il faut avoir des actions très symboliques, mais ne surtout pas utiliser aucune forme de violence. Et puis, on peut se poser la question, quand on voit effectivement les résultats de l'évolution du monde ces 10-20 dernières années, où voilà, l'empreinte écologique continue à augmenter, que les inégalités continuent à augmenter. On peut se demander si certaines formes d'action que certains peuvent ressentir comme violentes, alors on n'a jamais effectivement défendu la violence contre les personnes, ça c'est en tout cas clair, ouais. Que c'est une limite qui nous semble absolument infranchissable.
L'idée gandhienne.
Par contre, certains dégâts par rapport à briser la vitrine d'une multinationale, est-ce que c'est vraiment violent par rapport aux dégâts réels que fait cette multinationale.
Absolument.
Donc voilà, on a voulu effectivement essayer de proposer des choses un petit peu différentes, une vision un peu différente des Black Blocs, par exemple, ouais. On en parle beaucoup.
Très intéressant. Voilà. Très intéressant parce que, justement, parce qu'on les voit sous une autre... moi, je les ai toujours vus un peu sous une autre forme que celle donnée par la presse. Deux pages sur les Black Blocs, effectivement, par deux rédacteurs de moi. C'est ça ?
Oui, par deux rédacteurs de moi qui ont mené l'enquête, mais qui ont interviewé deux personnes très intéressantes. Une première qui est un militant et qui est un membre des Black Blocs, donc ça semblait assez évident d'essayer de donner la parole à ces personnes. Et puis une autre personne qui est un universitaire un peu particulier, un universitaire anarchiste spécialiste des Black Blocs, ce qui permet de donner effectivement
une autre lumière
assez intéressante sur ce mouvement.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce dossier ?
Ou alors on peut dire plein de choses, mais effectivement, je crois que on a essayé de faire, en même temps, de faire effectivement un petit historique, d'essayer de voir d'où viennent ces mouvements. On se rappelle des mouvements et des violences à Seattle en 99, de Gênes, et puis de la mort d'un militant à Gênes, etc. Donc de rappeler tout ça, essayer de comprendre d'où viennent ces mouvements.
Ça, c'est sous Résistance sans résilience, page 16, où il y a un peu toutes ces historiques-là, jusqu'à...
Voilà, tout un grand entretien avec Olivier de Marcellus, qui est un militant historique de ce genre de mouvement, qui permet un peu de comprendre ce qui se passe en Suisse par rapport à cette résistance à la mondialisation néolibérale. Donc voilà, c'est un dossier qui est assez généraliste, qui propose des approches différentes pour se demander, voilà, est-ce qu'il faut aller à Hambourg pour contre-manifester ? Est-ce qu'il vaut mieux rester à la maison et faire autre chose ? Est-ce qu'il vaut mieux venir parler à Pôle Sud ? Voilà, la question est ouverte.
Ça, c'est toujours bien. Et puis, vous signez la rédaction de moi, s'armer d'audace et d'imagination contre leur arrogance prédatrice. Bien sûr, l'arrogance des grands chefs de ce monde qui se trouvent à Hambourg avec des idées assez sympas. Enfin, tourner en dérision quand même. Tourner en dérision, c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité.
Oui, la dérision.
Au-delà des actions concrètes, qu'elles puissent être violentes, non violentes ou voilà.
Voilà, il faut rester actif, c'est sûr, mais la dérision, l'ironie, ça permet parfois de désamorcer, de faire tomber ces grandes personnes de leur piédestal sur lesquelles finalement personne ne les a hissées.
Et ouais, c'est bien dit. Elles tomberont un jour, c'est ça.
Espérons.
Et puis bon, violence, on parlait de la violence, etc. Et voilà, allez, comme ça on finit cette rapide lecture en parlant de Chaïm Nissim, qui était quand même un militant anti-nucléaire notamment, et qui avait pris effectivement, qui avait fait un attentat contre une centrale nucléaire. Hein, voilà, on est en plein dans les histoires d'actions violentes pour résister.
Oui, d'ailleurs, il était à Pôle Sud il n'y a pas très longtemps. Oui. Hein, on avait organisé un débat une soirée plutôt avec le ROC ici à Pôle Sud sur l'utilisation de la violence dans les mouvements écologiques.
Réseau d'objection de croissance.
Il était présent, voilà. Et donc voilà, c'est une personnalité très forte, très, très particulière, très sensible, quelqu'un de très impressionnant que nous avons perdu. Et donc on lui a rendu un petit hommage dans le journal.
Oui. Oui.
Voilà, donc ces dossiers, ces articles hein, qui font partie de ce nouveau numéro 29 du magazine Moins, Chaïm Nissim, la mobilité, la santé et le dossier autour du G20. Merci beaucoup Mathieu Clerc.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Un plaisir, on vous retrouve à la rentrée, après l'été.
Très volontiers.
Avec plaisir pour le numéro 30, si mon calcul est juste, pour le mois de août et septembre. On peut vous rappeler encore que le magazine Moins dont on parlait ce soir est à retrouver dans plusieurs kiosques de Suisse romande au prix de 5 francs ou dans plusieurs lieux collectifs à un prix libre. Et puis vous pouvez également de manière personnelle vous abonner pour recevoir directement chez vous ce magazine Moins qu'on rappelle qui n'a aucun apport publicitaire et toutes les contributions sont bénévoles. Encore un dernier mot, si vous souhaitez donner un coup de main pour le prochain numéro du magazine Moins. La mise sous pli aura lieu à Vevey, ce sera le 29 juin, n'est-ce pas Mathieu Clerc?
Oui, le 29 juin, dès 10h, rue des Deux Marchés 23, premier étage, c'est toujours un moment sympa et convivial.
Avec l'apéro, j'imagine.
29 juillet.
Juillet.
Oui, juillet. Pardon.
Dès 10h.
Juillet, parfait, voilà, 29 ouais. juillet, au milieu des vacances. Une inscription est demandée, si c'est possible, à info@htmoins.ch. Merci beaucoup, Fabio, pour la lecture de ce magazine.
C'est un plaisir, toujours.
Et merci à Mathieu Clerc pour nous avoir parlé ce soir,
merci
rédacteur à ce magazine. Un sujet sur l'édition 29 de Moins à retrouver sur notre site www.django.fm.
My body 躺在我
C'est presque du twist ici sur Radio Django avec Sakura My Bunnies.
Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Claudia.
Bonsoir Fabien.
Aujourd'hui, tu nous parles de Récif, une association qui soutient et facilite l'intégration des femmes migrantes et de leurs enfants à Neuchâtel et ainsi qu'à la Chaux-de-Fonds.
Oui, aujourd'hui, on ouvrira les portes du Centre des rencontres et d'échanges interculturels à Neuchâtel. Et avec la responsable du centre, on parlera des différentes offres pour les femmes migrantes, comme des cours de français, des ateliers, des activités socioculturelles. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre les voix multiculturelles des participantes qui ont été récoltées dans le cadre des cours et des activités à Récif, dont on a entendu avant les voix parce qu'elles sont ici à nous regarder.
Exactement, puisqu'on a un large public ce soir. Et puis nous aurons également le plaisir de découvrir Samantha qui nous parlera d'un projet personnel en lien avec la radio.
Oui, exactement, on parlera aussi de radio avec Samantha qui est d'origine vénézuélienne et a de l'expérience de la communication sociale et rêve de pouvoir utiliser la radio pour valoriser, donner une voix aux femmes migrantes.
Et puis, pour commencer, eh bien, on vous propose d'écouter un son que tu as récolté dans un cours d'alphabétisation.
Les fromages.
Le frigo.
Le frigo.
Le frigo.
Bienvenue.
Il
y a la radio qui arrive.
Bonjour, je m'appelle Julieta, je viens de Kosovo, j'ai 8 enfants. Et puis je viens à Récif pour que prendre lire écrit.
Magaïgo wa sahro, wahana hay Somali, je m'appelle Sakha, je suis somalien.
C'est Amiri, Sri Lanka.
Magaïgo Maftiha Mohamed Nour. Le nom Fatia Mohamed Nour.
Je suis Maïla Tabrahan, Afourki. Je suis Eritrean.
Je m'appelle Ancha. Je suis somalienne.
Je m'appelle Meret. La Récif, jeudi, mardi, l'alphabet 2.
Un extrait donc d'un cours de français recueilli par toi, Claudia. Et on accueille Nathalie, Juseline, bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes
pour l'accueil.
Avec plaisir, vous êtes responsable du centre de Neuchâtel. Alors, on le disait en introduction, Récif est une association sans but lucratif, créée à Neuchâtel en 1994. Alors, expliquez-nous, pour commencer, comment est née cette association ?
Alors, c'était il y a déjà 23 ans, le temps file.
Oui, ça date.
Ouais. Et à l'époque, deux assistantes sociales et deux femmes migrantes avaient constaté qu'il existait des activités ouvertes aux migrants, mais que très peu de femmes les fréquentaient. Et elles ont un peu analysé les obstacles à l'époque. Et il y en avait un qui était lié aux enfants. Le fait d'avoir des enfants en bas âge, quand on n'a pas sa famille ici, qu'on est seul, ben c'est difficile de faire des activités pour soi quand on n'a pas moyen de garde. Un autre obstacle aussi lié aux enfants était le fait des horaires scolaires. On sait qu'ici, en Suisse, ce n'est pas évident de jongler entre activités personnelles et horaires scolaires. Donc Récif est né à l'époque avec un espace enfant pour régler ces problèmes-là et en s'adaptant un maximum à ces horaires scolaires pour pouvoir permettre à des femmes de venir. Et un troisième obstacle, là qui concerne toutes les femmes d'où qu'elles viennent, était lié à la mixité. Donc là, le fait que Récif soit un centre non mixte, c'est une réalité, ça a permis à des femmes qui n'auraient pas pu venir de rejoindre ces activités.
Alors justement, je voulais y venir, pour quelle raison avoir choisi d'ouvrir les portes uniquement et exclusivement aux femmes ?
Alors, on n'a rien contre les hommes, il faut qu'on soit très clair.
Bon, tant mieux.
Voilà, c'était, comme je viens de le dire, surtout l'idée de lever un obstacle pour que certaines femmes qui ne pourraient pas venir dans un centre mixte, et là, je parle vraiment de femmes depuis très divers, il existe de la jalousie, il existe des peurs liées au centre mixte. Donc là, le fait d'être qu'entre femmes, ça a permis aux femmes de tout horizon. Aujourd'hui, il y a près de 80 nationalités qui viennent à Récif. Et plus de 600 femmes, donc ça répond réellement à un besoin. Et le fait maintenant d'être entre femmes, ça permet aussi d'aborder certaines thématiques, de, voilà, d'avoir une convivialité mm-hmm. différente. Mais il faut aussi souligner qu'on a pas mal d'hommes jaloux quand ils entendent...
Expliquez-nous ça.
Quand ils entendent ce qu'on fait à Récif, quand on commence à énumérer toutes les activités, quand ils voient toutes ces femmes qui viennent à Récif mm-hmm. s'épanouir, bah, ils commencent à demander puis pourquoi il n'y aurait pas un centre pour les hommes. Et c'est effectivement, je pense, une question pertinente. Mais moi, je réponds à ce moment-là, ben, organisez-vous.
Exactement. Exactement. C'est une bonne idée.
Et alors, ça, beaucoup de femmes et puis beaucoup de prestations à Récif. Il y a des cours de français, il y a des animations, il y a un espace pour les enfants. Mais est-ce qu'on peut dire un petit peu plus sur les activités qui sont offertes tous les jours à Récif?
Oui, bien sûr, volontiers. Donc on a parlé déjà de la présence d'enfants dès le départ et c'est vrai que c'était pour rendre service aux mamans, mais maintenant c'est devenu un secteur en soi. Donc les enfants qui viennent, là ils sont presque 250 dans nos deux centres, Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, à venir chaque semaine. Ils apprennent à séparer de leurs parents, ils apprennent la socialisation, ils apprennent le français. Donc il y a aussi des apprentissages du côté des enfants qui vont faciliter l'entrée à l'école. Ensuite, on a un secteur de formation. On donne beaucoup de cours de français parce que c'est la demande numéro une. Mais il n'y a pas que ça. On a des cours de tai chi, d'informatique, de couture, bientôt du yoga. Donc, il y a une diversité dans l'offre des ateliers. On a une formation aide-ménagère aussi. Et ensuite, on a tout un secteur de l'animation qui vise l'objectif central de Récif, qui est celui des rencontres et des échanges. Et là, il y a une créativité magnifique. On fait des activités femmes-enfants, mais on fait aussi des visites à des personnes âgées dans les homes. On fait des sorties culturelles. On a beaucoup de partenariats avec des centres ou des lieux culturels ou des festivals sur Neuchâtel. Voilà, je pourrais en énumérer, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'activités et avec il y a un beau dynamisme et une belle créativité dans l'association qui fait que chaque année c'est différent.
Alors Récif s'adresse à des femmes de différentes cultures, différents âges, différents horizons et certaines d'entre elles ont accepté de nous parler de Récif et de ce que leur a apporté l'association. On les écoute.
Bonjour, je m'appelle Gloria et je viens de l'Équateur. Et je fais beaucoup d'activités que j'adore. Bon, des sorties avec les enfants, des sorties pour marcher. On fait beaucoup d'activités. Par exemple, demain, on va faire des vélos. Et je suis très contente. C'est trop heureux d'être ici. Bon, quand j'arrivais ici, je ne connaissais personne. Et maintenant que je suis à Récif, je connais le monde, et je parle, je me sens bien.
Je m'appelle Razia, je viens de Bosnie. Je suis au café Blabla et je suis au niveau 2 cours français. Parce que ça me occupe, j'apprends un peu plus de français.
Je m'appelle Swati, je viens d'Inde. J'aime le Récif, j'aime le café Blabla. Tout le monde est ici très, très bon, très sympa. Oui.
Il y a beaucoup de pays et savoir petit à petit, on apprend aussi qu'est-ce qui se passe. Et puis on apprend aussi qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un. Une, parce que tout le monde a des difficultés, tout le monde a un parcours différent.
J'ai participé dans des cours de français et café Blabla et café Blabla tricoté et les cours de peinture aussi. Récif, c'est très bien place pour continuer, spécialement aussi pour pratiquer mon français. Et je donnais un cours aussi. Ici, j'ai donné le cours de tai chi.
Je suis bénévole de l'espace de les enfants et je commençais à donner le cours d'informaticien parce que je suis informaticien. Et maintenant, comme on dit, je suis bénévole dans l'espace de les enfants. Pour moi, c'est très, très important parce que les enfants, je pense que c'est le meilleur professeur pour apprendre le français. C'est beaucoup d'activités que donc, c'est cette association, c'est un important pour moi parce que c'est une possibilité de faire l'intégration. Hein? C'est super.
Ça fait 5 ans que je suis à Recife. J'ai commencé avec la peinture et le cours de la Suisse et moi. Et après, j'ai fait bénévolat au cours de couture. J'ai fait aussi bénévolat au espace enfant. Parce que quand moi, j'ai pris beaucoup de choses, la peinture, l'endroit que je ne connais pas, beaucoup de choses, j'ai décidé moi aussi que je donne quelque chose que je sais faire.
Alors, c'était les voix des femmes qui fréquentent Recife. Dans certaines, elles sont ici avec nous à Pôle Sud. Et on le rappelle, Recife, c'est un centre de rencontres et d'échanges interculturels pour les femmes migrantes. On l'a entendu de la voix de la responsable Nathalie Juselin qui est avec nous aujourd'hui. 600 femmes sur les deux centres à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds bénéficient des prestations proposées par l'association. Ça, c'était en 2016, 600 femmes. Et puis, je vais demander à Nathalie, 600 femmes sur les deux centres, ça montre une demande très élevée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de femmes migrantes à Recife qui demandent ce type de prestations?
Alors, il y en a 600, mais il y en a encore beaucoup en liste d'attente. Donc, ça veut dire qu'on ne répond pas forcément aux besoins de tout le monde. Mais je pense qu'une des raisons du succès de l'association, c'est qu'on répond effectivement à un besoin. On offre des activités qui font sens pour toutes ces femmes. Et c'est vrai qu'on sent comme à la maison à Recife, il y a un côté très convivial, très agréable. Et on entend de la part de beaucoup de participantes que c'est un peu devenu une deuxième famille, Recife.
Quel est le parcours de vie de ces femmes? Quelles sont les difficultés qu'elles vivent au quotidien?
Alors, je dis toujours qu'il n'y a pas un parcours de vie, tellement il y a de diversité à Recife. On a vu qu'il y avait plus de 80 nationalités en tout cas qui viennent. Ensuite, on a des femmes qui sont venues pour des raisons de regroupement familial, d'autres pour fuir une guerre. Il y a des femmes qui sont ici pour le travail. Donc, c'est des parcours qui peuvent être très différents en fonction de la raison de la migration, du statut qu'on a ici. On a des femmes peu scolarisées, on a des femmes surdiplômées. Donc voilà, il y a une énorme diversité dans les parcours. Mais je pense qu'il y a peut-être un point commun, c'est qu'elles ont migré et que dans la migration, il y a une reconstruction d'une nouvelle vie dans un nouveau pays, une reconstruction de liens sociaux aussi, une reconstruction de sens. Et voilà, on essaye de contribuer à tout cela avec l'association.
En parlant de femmes et des migrations, ça arrive souvent d'imaginer la femme migrante comme sans éducation, femme au foyer, dépendant de leur mari, mais tu viens de le dire, il y a des femmes surdiplômées, il y a différents parcours de vie. Et à Recife, justement, vous essayez de valoriser ces femmes formées, et non seulement, et de donner une autre image de la femme migrante. Pourquoi c'est important de faire ça et comment vous faites pour valoriser toutes ces femmes avec leur parcours de vie?
Alors, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur la femme migrante, alors que c'est des femmes qui ont migré pour des raisons très différentes, avec des parcours de vie très différents, comme on vient de le voir. Nous, on essaye de laisser une place à chacune dans sa spécificité. Donc, les activités qu'on va faire, on va les réfléchir pour que chacune essaye de trouver sa place. On a aussi cet encouragement du bénévolat des participantes. On a entendu plusieurs témoignages de migrantes participantes qui sont devenues bénévoles. Et là, c'est une valorisation de leurs compétences. On était informaticienne avant de migrer. Là, on retrouve une place pour pouvoir partager ces compétences-là. On a également fait un travail artistique, une exposition qui est sortie pour nos 20 ans, où là, on a aussi essayé de montrer une image un peu différente des femmes migrantes qui venaient à Recife. Ça s'appelle « Derrière la migrante, la femme ». Mais voilà, je pense que c'est vraiment un travail du quotidien. Et ce projet radio dont on va parler, on aimerait bien aussi qu'il participe à cette valorisation.
Alors, encore en deux mots, hein, l'intégration est un des axes principaux de vos actions. Qu'est-ce qui est pour vous une intégration réussite, Nathalie Juseline?
Alors, une intégration réussie, moi je dirais, c'est peut-être à partir du moment où on se sent appartenir à ici, enfin, qu'on a trouvé une deuxième maison, un deuxième lieu de vie. Qu'on sait pourquoi on y est, qu'on y trouve du sens, qu'on a des amis,
avec qui partager. Donc, à mon avis, c'est une dimension très forte. Bien sûr, il y a l'intégration aussi par le travail, il y a l'intégration sociale, enfin, plus large. Mais je pense que ces aspects-là, ils sont centraux pour une intégration réussie. Et pour moi, on insiste beaucoup sur la responsabilité des migrantes et des migrants pour leur intégration. Et à mon avis, c'est une responsabilité de toute la société. Et on le voit à Récif avec toutes les bénévoles qui s'engagent. On a parlé du nombre de participantes, mais il faudrait aussi souligner qu'on a près de 250 bénévoles qui viennent aussi chaque semaine. C'est aussi une contribution à l'intégration de toutes ces femmes.
Tu viens parler justement de bénévoles, mais quel rôle ils jouent et surtout qu'est-ce qui motive toutes ces femmes à s'engager comme bénévoles auprès de Récif ?
Alors, comme il n'y a pas deux femmes migrantes identiques, il n'y a pas deux bénévoles identiques, on a autant des retraités qui ont envie de continuer une activité, on a des étudiantes qui ont envie de voir ce que c'est le terrain, on a des personnes qui sont dans la vie active et qui, à côté de leur travail, trouvent du sens dans le bénévolat. Donc, les motivations peuvent être très diverses. Mais en tout cas, moi, ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans cette association et c'est une magnifique découverte de se dire qu'il y a une solidarité encore très, très forte aujourd'hui. Et voilà, donc je pense que c'est un sens de la solidarité aussi qui motive l'engagement de ces femmes.
Puis un sens de la solidarité interculturelle parce que c'est des femmes migrantes avec des femmes suisses. Et donc, on a voulu demander aux femmes migrantes comment elles voient, comment elles perçoivent la Suisse. Et on l'a fait en leur demandant de faire un collage représentant les stéréotypes de la Suisse. On va écouter la présentation.
La Suisse, pour moi, c'est la nature, la conservation de la nature aussi, le chocolat, l'horlogerie. La propriété,
pour moi, la Suisse, c'est le camping, nageuse et le viande.
C'est la vie avec la tour en Suisse. Il y a très bonne tour, les fleurs, les montagnes, les lacs.
J'aime faire de gauche à Migros et Coop chaque semaine. j'aime le chocolat. Beaucoup. J'aime Noël ici.
Pour moi, la Suisse, ça représente les temps. Parce qu'il y a l'hiver, l'automne, la primavera, tout ça.
Voilà, tu as des voix qui ont été récoltées par toi, Claudia, et aussi Samantha, d'origine vénézuélienne et bénévole à Récif, ainsi que des professionnels dans la communication sociale et le journalisme. Bonsoir, Samantha.
Bonsoir Fabien, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Alors ce soir, on voudrait en savoir un petit peu plus sur votre projet, puisqu'on en parlait en début de sujet. C'est une radio aussi, expliquez-nous.
C'est un projet radio qui est l'idée, mais bien nous d'abord parce que j'ai commencé un projet avec une copine à Neuchâtel, qui malheureusement n'est pas abouti. Je suis devenue mère il y a 3 ans et demi. Je suis arrivée à Récif il y a 3 ans, mais je n'ai pas eu l'opportunité de commencer à faire quoi que ce soit parce que je me suis investie tellement dans ce rôle. Et avec tout ce qu'a dit Nathalie, en fait, c'était exactement ça. Ça, c'était mon parcours. Je suis arrivée, je suis devenue mère, je ne sortais pas. C'était une espèce d'isolement imposé que je me suis fait sans me rendre compte. Mm-hmm. Et finalement, je me suis rendue compte que je voulais sortir, que je voulais valoriser mes compétences, je voulais me sentir encore en confiance. Donc, je suis venue à Récif, d'abord pour participer, chercher, je ne sais pas, la culture, quoi que ce soit, peu importe. Tout c'était pour sortir. Et puis, finalement, il était tout pris. Tout était plein, il n'y avait pas de place dans la garderie, tellement c'est un souci Récif là-bas. Mmh. Et finalement, j'ai parlé avec quelqu'un qui était à l'accueil, de dire, s'il vous plaît, je voudrais faire quelque chose, mais des bénévoles, peu importe. Et puis là, il avait Nathalie, j'ai parlé avec elle, je lui ai expliqué mon parcours, et puis elle a écouté attentivement, c'est ouvert, c'est sympa, comme elle a dit, un des voix que vous avez entendu. Tout de suite, elle m'a proposé d'intégrer l'équipe de communication de l'association Récif. Et
puis Samantha, il y a eu l'idée, c'est comme ça qu'on
a choisi aussi
de créer un projet radio.
Exactement, ouais. À ce moment-là, j'ai parlé du projet radio, qu'on pourrait faire un atelier radio avec les femmes pour Récif. Tout d'abord pour communiquer, en fait, pour faire un outil pour l'association. Et après, ça venu l'idée de l'atelier pour les femmes.
Pourquoi proposer une radio à Récif avec des femmes migrantes? Quels seraient les objectifs de donner une voix aux femmes migrantes?
Tout d'abord, parce que la radio, c'est un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu participatif, une radio communautaire. Qu'est-ce que je veux faire? Une radio alternative où les femmes peuvent se réunir, travailler ensemble. Puis changer un peu aussi les stéréotypes des femmes migrantes, comme tu viens de dire, la pauvre femme, la femme qui ne peut rien apporter. Ici, toutes les femmes, toutes les histoires des femmes qui arrivent à Récif sont tellement intéressantes. Et je trouve que tout ça, ça peut se transmettre à travers une émission qu'ils pourraient faire eux-mêmes.
Alors, pour arriver au bout de ce projet, est-ce que vous êtes inspiré d'autres projets qui pourraient être similaires, que vous auriez connus en Amérique latine ?
Pas forcément vraiment en Amérique latine, malgré qu'il y a beaucoup de projets là-bas, beaucoup de radios communautaires. Dans mon pays, il y a beaucoup de radios communautaires, pas online, mais des radios conventionnelles. Mais malheureusement, maintenant, c'est surtout des radios très pro-gouvernement. Et ça, je ne vous pas, parce que pour moi, la radio, c'est vraiment aussi un espace de dénonce. De montrer les injustices et ne pas être d'un côté ou d'un autre.
Alors, on rêve d'une radio. Comment tu imagines cette radio? Comment tu imagines une émission radio avec des femmes migrantes?
On a déjà pensé. J'étais trop... Oui, j'ai rêvé trop, en fait. J'ai fait une heure de radio avec trois femmes. Et quand je me suis rendu compte du travail que ça donnait, maintenant, je me dis, ça sera une fois par mois, une demi-heure, avec la musique, avec trois femmes qui vont parler.
Quand même trois femmes, c'est bien.
Trois, quatre, les femmes qui veulent participer. Et puis, ça les fera aussi développer leur réseau, ça les fera aussi apprendre un métier, s'ils voudraient l'apprendre. Ça fera aussi développer ou valoriser ses compétences et puis partager leur savoir-faire.
Mmh. Quels sont les horizons de ce projet? Est-ce qu'on pourra bientôt vous entendre?
J'espère bien, mais ça, il faudra parler avec Nathalie.
Ah, voilà, on lui demandera si on la croise.
Moi, je rêve vraiment. Ouais. J'ai déjà commencé, je vais y aller. Maintenant, je vais y aller, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce projet leur appartienne, en fait. Parce que ce n'est pas mon projet, c'est leur projet. J'aimerais bien que ça commence.
Eh bien, on vous souhaite plein succès. Vous avez la preuve devant vous que c'est possible et que ça existe, les projets radio. Merci beaucoup, Samantha.
Merci à vous.
Plein succès pour votre projet de radio. Merci également à Anna, Zélie, Juscelines. Vous êtes toutes les deux de Récifé. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps ce soir. Donc, Récifé, on le rappelle, centre de rencontre et d'échange interculturel pour les femmes migrantes et également les Suisses, comme on l'a précisé, à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Merci également à toi, Claudia, pour ce dossier.
Merci.
Un sujet qui a retrouvé en intégralité sur notre site www.django.fm. On remercie également toute l'équipe de Récif qui s'est déplacée ce soir.
Ouais.
Et on va conclure avec un morceau de musique que vous avez choisi, Samantha. Quelques mots peut-être?
S'appelle Tierra d'Eterno Verano. C'est peu, si je peux faire la traduction en français, c'est un peu la terre de l'été éternel.
C'est signé Andrea Lacoste.
Andrea Lacoste, c'est un auteur, compositeur, pas très connu, mais j'ai adoré cette chanson quand je l'ai entendue. Elle est vécue en Suisse parce que son père est diplomate.
Mm-hmm.
Et quand on entend la chanson, ça se voit que c'est quelqu'un qui est vécu à l'étranger et puis qui est revenu au Venezuela.
Voilà, on l'écoute. Merci beaucoup.
Si, merci à vous.
Me hace volar, volar, volar.
vers 18h51. C'est l'heure de passer à la suite avec la rubrique, bien sûr, Culture.
Radio Django, Culture.
Et dans la rubrique Cultiver Lausanne, en ce début du mois de juin, Basta, la librairie indépendante lausannoise, présente ce soir sur le plateau de Django ses coups de cœur du moment, qui vous donneront peut-être des idées de lecture pour les vacances à venir, Ségolène.
Oui, tout à fait Fabien. Pour en parler ce soir, Radio Django a le plaisir de recevoir une de leurs libraires. Bonsoir Mélissa Rendu, merci d'être parmi nous.
Bonsoir.
Alors, vos deux coups de cœur sont « Dérives asiatiques » de Julie Guignan, un recueil de nouvelles, des fictions, publié en 2016 aux éditions d'Autre Part, et « Attends-moi au ciel » de Carlos Salem chez Actes Noirs, donc là qui est aussi tout récent, qui a été publié en 2017, qui retrace l'histoire, donc là encore fictive, d'une femme fatale meurtrière.
Alors commençons peut-être par quelques mots sur « Dérives asiatiques » aux éditions d'Autre Part, un recueil de nouvelles composé par une jeune auteure suisse romande, il paraît.
Oui, donc Julie Guignan est une auteure neuchâteloise née en 1989. Elle est membre de l'AJAR, un collectif regroupant de jeunes auteurs suisses romands. Fin 2016, elle s'est vue décerner par le canton de Neuchâtel une bourse d'aide à la création littéraire pour son futur roman intitulé « Avalanche ». Alors Mélissa, dans « Dérives asiatiques », la jeunesse de l'auteur transparaît-elle, selon vous, dans le style de l'écriture ou par exemple dans le choix des histoires qui sont traitées dans ce recueil ?
Non, pas du tout. Je ne sais pas si elle a un style plutôt mature, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça fasse jeune. Dans son style, qui est quand même assez exigeant, dirais-je, il y a un petit côté un peu qui pourrait faire penser un peu à Ramu, où c'est quand même un vocabulaire, un choix assez élevé, mais tout d'un coup, il y a une expression ou un mot ou quelque chose qu'on ne retrouverait pas, qui est typiquement suisse et qu'on ne retrouverait pas dans un roman parisien, par exemple.
Et, vous avez un exemple en tête ou
Non. Non.
C'est des expressions suisses,
c'est ça? C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas retrouver soit dans un roman français ou dans une traduction.
Okay.
Et dans le choix des histoires, avec les protagonistes qui sont très différents de par leur âge, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, elles se font bien. Et du coup, on sent son style d'écriture, mais on ne sent pas son âge, quoi que ce soit d'autre.
Alors, Dérives asiatiques, c'est un recueil, on l'a dit, composé de 6 nouvelles se déroulant aussi bien au Japon, au Vietnam, au Cambodge qu'à Singapour.
Oui, donc on a ces nouvelles intitulées « Après la catastrophe »,« Le Tulou »,« Variation vietnamienne », je crois que c'est votre petit coup de cœur là, et « Angkor Thom »,« Au-delà » et « Horizon perdu ». Donc, Mélissa, est-ce que vous pourriez nous en dire 2-3 mots sur ces 6 nouvelles ?
Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai voulu lire ce livre, je pensais lire des récits de voyage. Donc, j'ai été très surprise avec la première nouvelle, Après la catastrophe, qui se passe au Japon dans le futur. Donc, science-fiction plutôt, un peu dystopique comme ça. Donc, c'est surprenant au début. Puis finalement, ça passe bien. Comme vous l'avez dit, Variation vietnamienne, c'est un peu la nouvelle que j'ai préférée parce que c'est un couple jurassien qui vit au Vietnam, à Hanoï d'abord et dans la baie d'Along ensuite. Et du coup, moi, ça m'a rappelé vraiment mon voyage au Vietnam. C'est tout ce qu'elle décrit, je pense qu'elle a dû y aller. Parce que c'est
assez
pas
juste.
Possible autrement, c'est très très juste. Ouais. Et c'est marrant de retrouver le Vietnam. Moi, j'ai lu des auteurs vietnamiens où là on retrouve les ambiances vietnamiennes, mais là que ce soit une Suisse qui décrive ça aussi, en tant que regard extérieur peut-être, ça rend la chose touchante aussi.
Mais après elle parle pas, enfin c'est pas une nouvelle sur la culture vietnamienne, ça c'est pas la toile de fond quoi.
Non, l'histoire c'est 4 enfants qui se retrouvent dans la maison familiale après le décès de leurs parents et ils retrouvent sur leur ordinateur des vidéos qu'ils ont fait pendant leur voyage, enfin quand ils vivaient au Vietnam dans les années 80. Et ça refait remonter plein de souvenirs, alors soit du Vietnam parce qu'ils y retournent à plusieurs reprises ou elle parle beaucoup des liens familiaux entre les parents, les enfants, les frères et sœurs. Et ça, j'ai trouvé très touchant aussi. Peut-être ça me renvoie aussi à mes propres frères. Et puis, sinon, il y a aussi Angkor Thom qui se passe au Cambodge, où c'est l'histoire d'une femme suisse aussi à la cinquantaine et qui est délaissée par son mari. Et quand ses enfants quittent la maison, elle essaye de retrouver un peu des sensations, une nouvelle vie. Et elle finit par s'inscrire à un jeu de télé-réalité un peu survivaliste comme ça au Cambodge. Et on ne sait pas trop ce qui lui arrive, est-ce qu'elle y va ou pas. On sait qu'elle est dans un lit d'hôpital. Elle pense être la dernière personne pas folle de l'histoire, mais elle délire un petit peu.
Ouais. Oui, parce qu'Angkor Thom, c'est un grand temple au Cambodge. C'est très, très touristique. Mm-hmm. Et puis, ils organisent, en fait, comme vous venez de le dire, une...
Alors là, c'est dans l'histoire, après, la réalité, non.
Oui, mais... Ouais, non, mais une télé-réalité dans le temple, en fait, c'est ça.
Oui, ouais. Qui se passe dans le temple. Où apparemment, ils vont s'entraîner d'abord sur le temple d'Angkor Wat, juste à côté, et après, ils vont jouer sur Angkor Thom, mais ils s'entretuent, ils doivent se débrouiller pour boire, pour manger, il n'y a rien, ils sont tout seuls, c'est assez chaotique.
Et Orantène, tu me disais que le Toulou, ça se passait en Chine cette fois-ci.
Alors en fait, c'est l'histoire d'un Suisse qui essaye de construire un Toulou dans le Jura.
Ah, voilà.
Donc un Toulou, c'est une maison.
Oui, qu'est-ce qu'un Toulou exactement? Bonne question.
C'est une maison traditionnelle chinoise où on vit en communauté en fait.
Bien.
Donc ce personnage essaye de créer ça dans le Jura et il découvre ça en Chine, il se marie avec une Chinoise, il la ramène en Suisse. Mais sa femme ne rêve pas trop de revivre dans un Toulou, dans le Jura.
Donc, c'est moins charmant.
Non, et donc,
il semblerait.
Donc, ses rêves à lui vont un peu se déliter, son couple se déliter aussi. Et du coup, il laisse son Toulou à l'abandon.
Et en fait, à part en dehors de l'Asie, est-ce que selon toi, il y a un fil conducteur entre ces six histoires ou...
Oui, au début, je pensais la Suisse, mais en fait, non. mais je pense que c'est plutôt le rapport aux personnages, les liens entre les personnages, la façon dont elles traitent les souvenirs, le passé, parfois l'avenir incertain aussi. Oui, je pense que c'est plutôt les quêtes de personnages qui sont déçus ou pas, mais... C'est jamais hyper joyeux, mais en même temps, c'est pas toujours catastrophique.
Ok. Donc c'est un recueil de nouvelles comme ça. C'est assez sympathique en été parce que on peut en lire deux un jour et puis le laisser de côté, puis en lire deux autres une semaine après. Donc c'est assez. Enfin, c'est pas un livre où on est vraiment plongé dedans. Enfin, il faut.
Non, c'est très confortable.
Effectivement, si on le décrit, puisqu'on l'a ici sous les yeux, c'est 150 pages, petit format, couverture blanche avec dérive asiatique, le titre donc en orange, des nouvelles qui font quoi, quelques dizaines de pages?
Ouais, 10, 15, 20.
Ouais.
Pas beaucoup plus long, ça se lit assez vite, ça se laisse lire, c'est assez agréable. Mm-hmm. C'est facile, mais c'est pas simple. Donc
abordable par tout le monde.
Absolument. Et puis c'est transportable dans une valise. Ça prend pas trop de place.
Même dans le sac à main.
Ou le sac à main, voilà.
Et on peut le prendre sur la page puisque la couverture a l'air relativement solide. Donc ce recueil de nouvelles dérives asiatiques de la Suissesse Julie Guinan aux éditions D'autre part, paru en 2016, donc l'année dernière. Passons peut-être à un second coup de cœur, le roman de Carlos Salem, Attends-moi au ciel, disponible aux éditions D'autre part, Ségolène.
Oui, donc là, l'auteur, Carlos Salem, y peint l'histoire d'une femme pieuse de conditions sociales élevées, Piedad de la Viuda, et qui va un jour, suite à l'accident mortel de son mari, elle va découvrir une vérité insoutenable, et puis au fur et à mesure, elle va se transformer en monstre. C'est bien ça, Mélissa?
Ah, je ne dirais pas se transforme en monstre. Moi, je pense qu'elle s'émancipe, plutôt.
La symbolique.
Après avoir...
Alors, expliquez-nous tout ça.
Piedad en espagnol, ça veut dire piété. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit, Piedad est très, très pieuse. Et elle va découvrir... suite à la mort de son mari, elle va essayer de s'y retrouver dans ses histoires d'héritage, de succession. Et... par rapport à l'entreprise familiale, on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Elle découvre que son mari a détourné son argent.
Donc c'est pas un saint.
C'est absolument pas un saint. Il a détourné son argent. Elle apprend qu'il allait s'enfuir au Brésil avec son amante. le soir même, je crois, où il devait mourir, où il est mort, enfin voilà. Et on comprend petit à petit que Benito, son mari, n'est pas mort accidentellement, mais c'était un meurtre. Et Piedad, en fait, va commencer à être poursuivi par des mafieux, par toute une galerie de personnages assez hautes en couleur. Mmh. Et elle va commettre un premier meurtre en se défendant, mais en fait, elle va faire que s'enfoncer dans des histoires pas possibles.
Donc, elle va en commettre d'autres, c'est ça.
Elle va en commettre d'autres et elle va découvrir, en fait, son corps de femme à l'aube de la cinquantaine où, en fait, elle est toujours belle et puis elle est intelligente et elle va réussir. Comment elle va réussir à s'en sortir, ça ?
Surprise.
Surprise.
C'est une lecture d'été. Vous le recommandez ?
Oui.
C'est léger, abordable par tous.
C'est léger et en même temps, c'est extraordinaire.
Et puis, l'auteur a un univers assez particulier.
Oui, Carlos Salem, il écrit plutôt des romans policiers ou noirs, en tout cas. Ce n'est pas toujours des policiers qui sont mis en scène. Et ce que j'aime bien, c'est que si on lit tous ces romans, on va retrouver dans chaque roman un personnage qui vient d'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de connaître dès la première...
Pour comprendre le livre,
mais du coup, ça fait des liens et il fait toujours appel à d'autres auteurs. Enfin, il fait référence à d'autres auteurs. Là, en l'occurrence, il ne fait pas de référence à un auteur, mais le fil rouge, c'est les boléros espagnols.
D'accord. Et là, Mélissa, pourquoi est-ce un coup de cœur, enfin, qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce roman?
Mais Carlos Salem est incroyablement irrévérencieux et drôle. Et... Il est un peu trash, mais pas trop. Mais en même temps, c'est comment dire, c'est drôle. Moi, je ris beaucoup quand je lis Carlos Salem. Et c'est facile à lire, mais c'est pas bête.
D'accord. Il y a quand même du fond.
Il y a du fond, ouais.
Notamment sur les relations humaines, c'est assez juste ou.
Ouais. Ouais. C'est plutôt grotesque.
Ah d'accord.
Absurde parfois, mais non, je pense que c'est comment il dépeint les relations humaines, oui, c'est assez juste, c'est très humain.
Voilà donc pour ce deuxième coup de cœur, Attends-moi au ciel, signé Carlos Salem aux éditions Actes Noirs.
Oui, donc j'espère qu'on vous a donné envie avec ce recueil et puis ce roman. En tout cas, merci beaucoup Mélissa d'être venue ce soir sur notre plateau, c'était super sympa. Donc on rappelle que Dérive asiatique de Julie Guignon est disponible aux éditions D'autre part, qu'on peut aussi retrouver Attends-moi au ciel de Carlos Salem aux éditions Actes Noirs. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la librairie Basta de la rue du Petit Rocher, dans le quartier de Chaudron à Lausanne, où la sympathique équipe de la librairie indépendante lausannoise vous y attend, et puis aussi plein d'autres livres pour l'été, donc allez-y.
Allez-y, et jetez-y un coup d'œil. Et puis, Mélissa, les horaires, est-ce qu'ils changent pendant l'été ?
Oui, alors la librairie de Chaudron sera fermée du 24 juillet et rouvrira le 8 août.
Parfait. Voilà, 15 jours pour prendre un petit peu de congé.
Voilà, pour lire plus.
Pour lire plus et ramener des nouveautés. Donc, pour la rentrée, merci beaucoup, Mélissa Rendu.
Merci,
avec
Mélissa.
Plaisir, merci
beaucoup d'avoir partagé ces coups de cœur avec nous, ici sur le plateau de Radio Django. On rappelle que vous êtes libraire chez Basta. On vous souhaite une très belle soirée et un bel été.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Un sujet qui est signé Ségolène, des livres qui sont lus par Ségolène, les coups de cœur de Basta du mois de juin. Un sujet à retrouver, bien sûr, sur notre site www.django.fm. Avec tous les liens qui sont nécessaires. Merci. Trois sujets étaient au sommaire de ce grand direct, le nouveau numéro du magazine Moins, l'association Récif et les coups de cœur à l'instant, les coups de cœur de l'été de la librairie Basta. C'est le programme que nous proposions ce mardi 13 juin sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site à partir de demain sur www.django.fm. La semaine prochaine, ce sera le retour de Parle-moi Suisse, la chronique qui parle de la Suisse avec les cinq sens, et puis nous aurons également la chronique de Voix d'exil. Et puis il y a du nouveau, semble-t-il, du côté du collectif R. On fait le point un mardi prochain. Je vous donne donc rendez-vous à 18h précise mardi prochain pour un nouveau grand direct. Merci à la technique et à toute l'équipe qui a œuvré pour réaliser cette émission, Fabio, Claudia et Ségolène. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes de Radio Django et de La Fabrique. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.